aujourd'hui, nous retrouvons Denise Proulx dans notre section Voix féminine. Denise est une femme complète et accomplie qui a su s'impliquer dans la vie des agriculteurs de plusieurs façons. Elle a eu plusieurs métiers dans sa vie, elle va nous expliquer tout ça. Bonjour Denise.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours professionnel ?
Oui, mon parcours professionnel, en fait, alors j'ai toujours été doublement professionnelle. Mm-hmm. J'ai travaillé à la fois comme journaliste et enseignante. La vie m'a placée comme ça, m'a donné ce choix-là dans la vie que j'ai jamais voulu finalement décider si je prenais l'un ou l'autre. J'aimais les deux, alors j'ai mené parallèlement une vie de journaliste mm-hmm. et une vie d'enseignante. Et le journalisme m'a amenée à d'expérience en expérience, à voir davantage développer mes compétences d'enseignante. Actuellement, je suis davantage enseignante que journaliste. J'enseigne à l'Université du Québec à Montréal, à l'Institut des sciences d'environnement, comme chargée de cours, professeure enseignante, dans tous les enjeux des systèmes agroalimentaires, à la fois conventionnels et aussi toutes les nouvelles tendances, les nouvelles demandes qui incluent les enjeux environnementaux. Donc, ce qu'on appelle... malencontreusement, à mon avis, là, l'agriculture alternative, à mon avis, c'est pas alternatif, c'est une autre forme de vision d'agriculture, là. Donc, professionnellement, c'est ce que je fais. Comme journaliste, bien, j'ai tout fait, en fait, comme journaliste. J'ai commencé ma vie professionnelle comme journaliste régionale. J'ai travaillé dans les médias nationaux du Québec. J'ai travaillé pour des magazines. J'ai fait du journalisme international. Et j'ai toujours travaillé un peu aussi depuis le début des années 90 dans les journaux agricoles mm-hmm. parce que j'ai toujours trouvé que l'agriculture était une façon de voir véritablement le cœur, l'essence, l'âme d'un peuple. Alors j'ai toujours aimé faire du journalisme agricole, même dans mes grands reportages internationaux, j'ai toujours gardé un volet agricole. Et puis, c'est comme ça que ça m'a amené à vouloir davantage en savoir, apprendre davantage pour bien comprendre les enjeux. L'environnement m'a toujours beaucoup préoccupée également. Donc, ça m'a amené effectivement à faire des études supérieures en sociologie de l'environnement parce que je trouvais que comme journaliste à rapporter de l'information, plus j'avançais, plus ça me gardait insatisfaite.
Oui.
J'avais l'impression de répéter des bêtises des fois, là. Puis je me disais, non, ça se peut pas, il faut que je comprenne mieux pour être capable de bien mettre en perspective mes propres articles. Alors c'est ainsi que je me suis intéressée à faire une sociologie de l'environnement mm-hmm. et j'ai travaillé les aspects des crises de cohabitation sociale dans le milieu agricole en m'attardant aux crises de cohabitation sociale au Québec dans le domaine de l'expansion des porcheries à la fin des années 1990, début des années 2000. Ça a donné lieu à un livre qui s'appelle « La porciculture intempestive au Québec ».
Pourquoi avoir écrit un livre sur ce sujet en particulier?
Bien, d'une part parce que je trouvais que ça me permettait de rejoindre plusieurs de mes intérêts. D'une part, mon côté d'intérêt social. Quand je disais tantôt, j'aime l'agriculture parce que c'est vraiment dans les communautés, voir l'impact que ça a dans les communautés.
Oui.
Ça allait chercher le côté environnemental de mes préoccupations également. Mm-hmm. Et aussi le volet de l'agriculture comme tel. Les porcheries, c'est un milieu qui n'est pas sous gestion de l'offre au Canada. Donc, sous la pression d'un marché international et qui veut suivre les règles du marché international et qui a toujours une immense influence sur le type d'agriculture que nous faisons au Québec, l'usage de nos sols, de nos terres, le prix des terres, etc. Donc, je trouvais que ça avait un volet, somme toute, assez global à ce niveau-là. Mm-hmm. Et il y a que de plus en plus de personnes veulent vivre dans le milieu rural tout en ayant une vie professionnelle plutôt urbaine.
Oui.
Donc, ces personnes-là arrivent en milieu rural avec des attentes de salubrité, de préchés parce qu'il y a l'école également, de tranquillité, etc. Et ça devient des immenses conflits de cohabitation. Mais ça aussi, ça démontre toutes les dérives que l'agriculture a laissé aller.
Oui.
Et que c'est le milieu néo-rural qui, de par ses exigences, de ses attentes, qui a fait en sorte que ces dérives-là ont été mises en valeur, ont été mises au jour et que ça a pris un équilibre et un respect, non seulement des humains qui habitent les uns à côté des autres, mais aussi de la nature qui était, dans le domaine des porcheries, passablement, je vous dirais, maganée, là, dans le sens. L'économie passait toujours très fortement avant l'environnement et le respect de la nature.
Est-ce que vous pensez qu'on a trouvé un équilibre par rapport à ça ou toujours pas?
Dans le domaine des porcheries,
oui.
Assurément pas. Assurément pas. C'est un milieu qui est encore excessivement en crise.
Mm-hmm.
Et tout récemment, j'ai écrit un autre livre là, qui s'intéresse aux luttes citoyennes depuis les 60 dernières années. Et le volet porcherie démontre que lorsque finalement il y avait des avancées citoyennes pour réorienter les façons de faire dans le domaine des porcheries notamment,
mm-hmm.
bien, il y avait un pas de recul du milieu des éleveurs de porc du Québec pour mieux récupérer quelque part la problématique et ensuite poursuivre par des modifications en catimini des règles de la réglementation gouvernementale, etc., qui fait en sorte que d'années, de décennies en décennies, les problèmes reviennent.
Oui.
Puis aujourd'hui, parmi les nombreux problèmes qu'il y a, c'est qu'on a laissé trop de concentration au niveau de la des porcheries. En fait, l'agriculture actuellement, un de ses grands problèmes, c'est que c'est la concentration qui s'établit de façon quasiment exponentielle dans certains secteurs. Là.
Oui. Et donc, par l'écriture de ces deux livres, est-ce que vous avez senti vraiment le besoin d'expliquer un petit peu aux gens ce qui se passait dans ces milieux?
Ah, mais je le fais. Oui, je le fais. Moi, je suis quand même une personne qui est impliquée socialement dans ma vie personnelle.
Mm-hmm.
J'ai toujours été capable, avec beaucoup de rigueur, de séparer mon travail professionnel de mon engagement de citoyenne dans ma communauté.
Mm-hmm.
Et je considère que l'éducation populaire face au milieu agricole est essentielle.
Oui.
Est essentielle. Parce qu'on ne pourra pas assurer une qualité de l'agriculture, un maintien de l'agriculture familiale, un maintien de la qualité des aliments, la prise en compte des enjeux, des changements climatiques, la chute de la biodiversité. Le consommateur, la population qui mange 3, 4, 5 fois par jour ne comprend pas que plus elle utilise la nourriture comme pour satisfaire une pulsion, moins elle soutient finalement le développement de sa santé et le développement de son milieu de vie, le développement de milieu agricole, la souveraineté de son agriculture également. C'est par en avant, comme on dirait en bon québécois, des problèmes qui vont devoir à un moment donné être pris de front.
Oui.
À bras-le-corps. Moi, je fais beaucoup d'éducation populaire. Je suis impliquée dans ma communauté dans la création d'un jardin collectif.
Okay.
Et nous créons ce que nous appelons des cafés partage, qui sont des activités une fois par mois de rencontres avec des producteurs de toutes sortes de domaines qui nous parlent de leur mode de production et qui ont comme mandat premier d'éduquer la population à manger localement, cultiver localement, aller le plus possible vers l'autosuffisance, faire pression d'une certaine manière sur les politiques autant municipales, gouvernementales que fédérales, pour ceux qui veulent aller jusque-là, pour
oui.
les changements, pour faire en sorte qu'on ait une agriculture beaucoup plus axée, une consommation alimentaire beaucoup plus axée sur nos saisons, nos capacités de production, etc.
Et quels sont vos retours par rapport à ça? Est-ce que les gens sont réceptifs?
C'est là. Faut être patient. Moi, je suis une personne qui accepte d'être patiente, mais il y a une écoute. Il y a une écoute, il y a un intérêt. Je vous dirais que l'intérêt est grandissant. Ça se voit.
Okay.
La seule voie de rencontre en rencontre, les questions des personnes présentes sont de plus en plus pertinentes. Et j'ose croire que dans leurs habitudes de consommation alimentaire, par la suite, il y a des petits pas qui se font.
OK. Et est-ce que dans votre vie de professeur, vous essayez d'inculquer ça aussi à vos élèves?
Ah ben oui, mais en fait, les élèves, moi, depuis 15 ans que j'enseigne à l'UQAM, j'ai vu changer énormément le comportement des élèves face à l'agroalimentaire.
Ah, ça s'est manifesté comment?
Bien, je le vois par à la fois leur attitude en classe et leur attitude aussi face à l'alimentation. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a 15 ans, lorsqu'on rentrait en classe, on donnait un cours assez conventionnel et tout le monde était à peu près d'accord. Et même, on avait des étudiants qui contestaient que l'on questionne l'usage des intrants et des pesticides, des intrants chimiques et des pesticides.
Oui.
Je vous dirais, 5 ans plus tard, au début de chaque cours, lorsqu'on demande bon, qui est végétarien, qui est carnivore, quels sont vos habitudes, etc., on voyait d'année en année augmenter le nombre de végétariens. Dans les travaux que les étudiants nous présentaient en fin de session, nous avions subitement des travaux qui s'intéressaient au gaspillage alimentaire. À la production locale, de proximité, etc. Et je vous dirais, avec les années, au début, fin des années 2010, début des années 2020, bien, on avait plus de végétaliens dans la classe, de personnes qui s'affichaient végétaliennes que de personnes qui s'affichaient végétariennes. Et les carnivores, eux, les omnivores se tenaient très tapis dans le fond de la classe sans lever la main. Là,
okay.
Parce que c'était comme devenu une minorité. Et je dirais même comme un autre extrême, dans le sens que les nouvelles générations d'étudiants s'alimentent beaucoup sur YouTube. Mm-hmm. Ils s'alimentent beaucoup des hauts très radicaux. Là.
Ouais.
Donc, il faut réajuster les choses. Il faut réajuster les discours. Il faut réajuster les visions. Donc, mais c'est évident que c'est rattaché au fait qu'ils ont, depuis qu'ils sont tout petits, une conscience environnementale qui leur a été inculquée, qui arrive par toutes sortes d'ateliers depuis qu'ils sont à l'école primaire. Alors, la conscience environnementale les a amenés à s'intéresser également à l'alimentation. Est-ce qu'ils mangent mieux? Non, pas nécessairement.
Oui.
Mais ils ont développé une conscience que l'agriculture a des dérives et qu'ils ne veulent pas y participer.
Mm.
Mais bon, nous, on essaie de leur expliquer que peut-être que le végétalisme n'est pas nécessairement le choix idéal,
oui.
Mais pour telle raison, et que bien, un équilibre dans l'alimentation est peut-être mieux, tout suffisance d'être son propre producteur de légumes dans un tout petit coin, peu importe dans un appartement, que ce soit par faire ses propres pousses de légumes, si on n'a pas de place pour mettre un plant de tomates et de poivrons,
mm-hmm.
ou de concombres, mais au moins de tendre vers ça et de, quand on fait nos choix à l'épicerie, c'est de tendre vers de l'achat local. Ce
oui.
qu'ils ne font pas, ils sont encore au plus bas prix possible.
Oui, oui, oui.
Le plus bas prix possible, je dirais que c'est le plus grand défi actuellement.
Mm.
Et il va s'accentuer parce que l'appauvrissement des jeunes est assez clair. Là. L'appauvrissement de la société, finalement. Là.
Oui.
Les gens pensent beaucoup. Consommer localement, consommer bio chez un producteur bio, que c'est plus cher.
Mm.
Il y a énormément de travail, d'éducation à faire. Beaucoup.
Vous ne pensez pas que c'est nécessairement plus cher?
Non. Parce que on achète en vrac, bien souvent, puis
oui.
ensuite, on achète en quantité. Au niveau du goût, le goût est très différent. On achète moins parce que c'est plus nutritif. Alors, mais tout ça, ça se découvre par dégustation, par atelier. Alors, je pense que dans les communautés, si on veut changer les habitudes de consommation et faire face à la mauvaise attitude du plus bas prix possible, qui est légitime, là. Dans le sens que les gens pensent que s'ils vont économiser 15$ sur l'épicerie, que c'est mieux que de payer plus cher. Mais c'est parce que qu'est-ce que vous mangez?
Mm.
Qu'est-ce que vous mangez? D'où est-ce que ça vient? C'est comme si vous vous ne prenez pas en compte des réalités sociales et environnementales qui vont nous coûter plus cher. Alors, c'est une conscientisation à développer, là.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre équilibre, comment vous avez réussi à concilier votre carrière, votre engagement, enfin vos engagements sociaux et votre vie personnelle finalement?
Ben, en fait, moi, en journalisme surtout, en enseignement, c'est pas la même dynamique, là, c'est plus facile, je vous dirais, bien qu'il y a quand même des contraintes. En journalisme, ce que j'ai fait, c'est que tout dossier dans lequel j'étais impliquée socialement, personnellement, j'ai de découvrir.
OK.
S'il advenait que j'étais obligée d'être dans une conférence où on touchait au sujet, disait mon interlocuteur que je ne parlerais pas de ce sujet-là dans l'article.
OK.
Et même à mon patron, je disais, tu me donnes telle assignation, je ne peux pas la faire parce que j'ai un biais idéologique dans le sens que je suis impliquée socialement dans tel domaine. Alors, j'étais très, très, très douloureuse dans ça. Puis, ça m'a appris aussi que l'honnêteté des gens qui j'avais devant moi.
Oui.
Moi, ça m'est arrivé de refuser de travailler sur des domaines, d'être assignée sur une autre couverture de presse, et que les personnes qui étaient déjà en bataille dans le domaine sur lequel j'étais impliquée comme personne bénévole dans ma communauté m'interpellaient pendant la conférence de presse sur nos sujets, pour me mettre dans l'embarras. Et ben moi, je répondais pas. Je suis pas là pour ça. Alors, mais je voyais que l'esprit tordu de certaines personnes, la malhonnêteté intellectuelle de certaines personnes. Mais bon, ça, c'est l'histoire de la société. Il y en a eu toutes sortes de monde.
Oui, oui.
Alors, mais c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à le faire. Du côté de l'enseignement, actuellement, je vis quelque chose d'assez particulier. Je suis impliquée dans ma communauté à la création. Elle est devenue une communauté nourricière. Mm-hmm. Et j'ai participé au comité fondateur de la communauté nourricière. Du côté de l'UQAM, nous travaillons actuellement à la création d'un programme sur les environnements nourriciers. Je suis en contact avec les professionnels de l'administration municipale, C'était un peu difficile parce qu'on ne sait pas trop de quel pied danser avec moi. Alors moi, je leur dis, c'est très bien. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais travailler avec la direction. Alors je fais toute la documentation, toutes les demandes officielles. C'est la direction du programme qui le fait. Ce n'est plus moi.
OK, oui.
Parce que moi, je veux faire avancer les choses. Je ne veux pas que je devienne un obstacle de par mon engagement citoyen.
Oui, je comprends. Et quelles leçons avez-vous apprises et que vous aimeriez transmettre un petit peu aux autres? Si on pouvait synthétiser un petit peu tout ça.
Les leçons que j'ai apprises, j'en ai appris beaucoup. Ouais. En fait, moi j'ai une historique familiale d'engagement citoyen. Mes parents étaient des personnes impliquées dans leur communauté. Mes grands-parents, j'ai des frères qui sont très impliqués dans le domaine de l'agriculture, dans la communauté également. Pour moi, c'est naturel. Alors, je pense que dans ma vie, jusqu'à présent, j'ai donné probablement autant d'heures d'implication bénévole que j'ai donné d'heures de travail. J'ai jamais calculé. Moi, je calcule pas. Je calcule pas mes heures bénévoles. Mais ce que j'apprends, c'est que pour moi, mes enfants sont dans leur vie professionnelle, ont intégré ça également. Ils sont devenus eux-mêmes, je pense à leur propre étonnement, à un moment donné, impliqués beaucoup plus de façon professionnellement avec des valeurs sociales, avec des valeurs environnementales, des valeurs face à l'agriculture. Ma fille est très, très impliquée dans toute la lutte au gaspillage alimentaire. Alors, ça joue énormément, je pense, dans les influences autour de nous. Ce que j'ai appris de ça, c'est beaucoup, beaucoup d'humilité, de patience, d'écoute. D'humilité dans le sens que je pense que si je veux réussir, quand on est impliqué dans un genre d'action comme celle-ci, là, si on veut réussir, il faut rester au même niveau que tout le monde. Dans le sens que, c'est sûr que moi, je suis une personne pressée, parce que ça fait presque 40 ans que je suis impliquée socialement dans les enjeux de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, des agriculteurs, du développement durable, etc. C'est sûr que moi, je suis devenue pressée. Je suis impatiente, personnellement. Mais j'essaie toute cette impatience-là, j'essaie de la transposer dans ma vie personnelle.
Oui.
Dans ma vie personnelle, plus j'avance, plus j'ai intégré énormément, énormément de changements. Mais pour le, par rapport aux autres personnes, j'ai été très active pour créer, comme je vous disais tantôt, les cafés partage, l'éducation populaire, et j'accepte d'aller au rythme des personnes. Pour moi, les cafés, l'éducation populaire, je vais m'y impliquer jusqu'à la fin de ma vie. Là.
Oui, je comprends.
Parce que je pense que c'est essentiel, c'est essentiel. Il faut faire évoluer les mentalités tout en connaissant, en comprenant les défis sociaux dans lesquels les gens sont placés. Il faut avoir une vision beaucoup plus globale, dans le sens que quand on pense économiser 20, 15, 20, 30 $ sur une facture d'épicerie, il faut regarder qu'est-ce que j'ai acheté, que j'ai pris, qui venait de l'étranger au lieu de prendre localement, et que finalement, j'aurais peut-être pu moi-même cultiver ou j'aurais peut-être pu moi-même cuisiner en contrepartie. Qu'est-ce que j'aurais peut-être pu en même temps aider un producteur qui, au bout de la saison, parce que je l'ai aidé, je l'ai accompagné toute la saison. Il me dit, regarde, j'ai des surplus. Il me donne une caisse de tomates au lieu de me la vendre.
Oui, oui,
alors, c'est à ce niveau-là, je pense qu'il faut lentement, mais sûrement, toujours faire avancer la société. Puis moi, ben j'ai beaucoup, 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 beaucoup d'habitude très, très, très marginale, je dirais là.
Oui.
Dans le sens que je mets en pratique ce à quoi je crois. Oui. Je sais que tout du moins.
Bon bah écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Je pense que c'est hyper enrichissant comme manière de voir le monde et surtout de transmettre aux générations qui arrivent un petit peu tout le savoir des personnes qui ont travaillé et qui ont recherché.
Ouais, mais je sais pas si ça va vous être utile à ce que je vous ai dit là, mais j'espère.
Parfait. Bah écoutez, merci beaucoup et passez une bonne journée.
Merci, pareillement.
Au revoir.
Au revoir.